Bienvenue à vous donc pour ce banquet de printemps 2014 sur la Grèce. La Grèce au cœur de l'Europe. Je crois qu'on est aussi en pleine résonance avec l'actualité. Pour présenter très brièvement ce banquet, ce que nous avons lu faire, je vais vous lire un très court texte que j'ai volé sur Facebook. Et oui, c'est une référence littéraire à Jean-Yves Masson, qui est le suivant. Les financiers nous parlent d'une Grèce endettée, mais pour ceux qui ont conscience du genre de valeur grâce auquel on pourrait peut-être sauver l'Europe, mais est-il encore temps? C'est nous tous, Européens, qui avons une dette envers la Grèce. Honorons ce qu'elle a de plus vivant et de plus beau à nous offrir aujourd'hui, sa poésie, sa littérature. Voilà, on ne peut mieux dire, je crois, et c'est le fil conducteur qui va, au fond, nous guider au cours de ces trois jours, à travers les paroles donc, des cinq écrivains grecs qui ont bien voulu venir jusqu'à la Grâce de Grèce. Ils vivent tous en Grèce, donc ils sont au cœur de cette société, à la fois très tourmentée, chahutée, déstabilisée. La pauvreté est vraiment une réalité, non pas du tout imaginée, mais réelle. Et en même temps, c'est une société qui témoigne d'une vitalité, et notamment d'une vitalité créatrice dans tous les domaines, la littérature, la poésie, et puis également le théâtre, le cinéma, etc. Et ce bouillonnement témoigne du fait que c'est une société qui est profondément européenne et que nous devons avoir dans notre cœur et au cœur de notre continent européen. Yannis Kourtzakis me disait l'autre fois que, par exemple, à Athènes, qui est quatre fois plus petit que Paris et que l'agglomération parisienne, il y a autant de théâtres aujourd'hui qu'à Paris. C'est un signe de cette vitalité dans une économie par ailleurs de survie. Et c'est ce que nous voulons honorer aujourd'hui. Donc avec nos amis écrivains grecs et aussi avec un certain nombre d'écrivains, traducteurs, grands connaisseurs et amoureux de la Grèce que nous allons entendre et que nous remercions très vivement. Voilà, donc tout de suite, nous commençons avec l'intervention inaugurale, on ne va pas dire la conférence inaugurale, ça a un côté intimidant, de Michel Volkovitch. Michel Volkovitch, qui est un des grands traducteurs de littérature grecque contemporaine, qui a traduit notamment parmi les auteurs qui sont présents ici, Ersi Sotiropoulos et également Petros Markaris, et qui est lui-même écrivain, qui a publié des livres très intéressants, notamment sur la langue. Et donc Baptiste Roussillon, comédien ici présent et grand lecteur, que je remercie aussi, ponctuera les interventions de lecture de 10 minutes à peu près, et donc notamment de lecture d'un extrait de Coup de langue, qui est un des textes propres à Michel Volkovitch. Voilà. Merci beaucoup, Michel. À vous.
Κάθε εμπόδιο για καλό, ουδέν κακόν αμοιές καλού. Version française, à quelque chose malheur est bon. Mot à mot, κάθε εμπόδιο για καλό, chaque obstacle, chaque empêchement pour le bien. Ουδέν κακόν αμοιές καλού, aucun mal non mélangé de bien. Voilà, c'était votre petite leçon de grec. À quelque chose malheur est bon, et oui, cette maudite crise qui ravage la Grèce est l'une des raisons qui font que la Grèce est à l'honneur ici, aujourd'hui, dans ce lieu merveilleux, avec une assistance si nombreuse qu'elle est intimidante pour le traducteur de grec qui n'est pas habitué à de telles foules. La crise, on en parle beaucoup. C'est même un objet d'étude à l'université en France. Je viens de lire un mémoire sur, je cite, « le traitement littéraire de la crise grecque » que j'ai allègrement pillé. Merci Lydia Belmecki. La crise, nous allons en parler. Mais pas tout de suite et pas tout le temps. Avant toute chose, il convient de planter le décor et de présenter les personnages. La Grèce, on croit la connaître. On connaît nettement mieux son passé lointain que son passé proche et que son présent. Il s'est passé beaucoup de choses depuis Périclès, Platon et Euripide. Alors je vais résumer en une phrase. La Grèce est un pays martyr. Elle a été soumise aux Romains, pas encore, asservie par les Turcs pendant 4 siècles. Sa langue a failli disparaître, ça n'a tenu qu'à un fil. Elle a obtenu son indépendance en 1830 seulement, et on lui a aussitôt infligé des rois allemands. La République, pour elle, est une invention récente. C'est un pays qui n'a eu ni Renaissance, ni siècle des Lumières, ni révolution industrielle. Un pays très vieux et en même temps très jeune, politiquement un peu immature, sans tradition démocratique solide. Et pour lui, pour ce pays, le XXe siècle a été une succession de guerres et de dictatures. Il a subi notamment une guerre civile atroce juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1950, dans les années 50, c'était un pays pauvre et exsangue, un pays d'émigration massive vers l'Allemagne notamment. Dans les années 70, ça s'arrange un peu, les colonels s'en vont, la Grèce est admise dans l'Europe, elle se modernise, elle acquiert une relative aisance. Et en 2004, les Jeux Olympiques, apparemment réussis, peuvent passer pour une espèce de couronnement. On a l'impression que le pays est parti et qu'il est sur le bon chemin vers une certaine prospérité. Et là, crac, la crise. La crise qui est cruelle, comme une maladie qui vous abat le jour où on se croyait guéri. Je dis la crise, et en fait, il y en a plusieurs. Il y a, comme vous le savez, je vais vite, il y a une crise économique, la récession, l'endettement, il y a une crise sociale, le chômage, qui touche actuellement 25% de la population active et 60% des jeunes. Il y a donc l'appauvrissement, un quart de la société en dessous du seuil officiel de pauvreté. Les riches vont très bien, merci. Il y a une crise politique avec l'absence criante de dirigeants dignes de ce nom, du moins au pouvoir. Une crise morale avec comme furoncle révélateur le parti néo-nazi de l'Aube dorée qui est soutenu par une partie non négligeable de la population. C'est donc un pays blessé, mutilé par l'ultralibéralisme, et un pays qui est en ce moment à la fois d'émigration, parce que beaucoup quittent le navire quand même, s'ils le peuvent, ceux qui le peuvent, et un pays d'immigration, parce qu'il accueille en même temps la misère du tiers-monde sous forme de nombreux immigrés. Tous ces malheurs, logiquement, devraient attirer la sympathie. Eh bien non. L'image de la Grèce à l'étranger, vous avez pu vous en apercevoir, est plutôt négative. Et ça ne date pas d'hier. Vous avez lu Tintin, Rastapopoulos, à la fois ridicule et malfaisant. Je vais vous lire ici une petite récapitulation, un best-of ou un worst-of, si vous voulez, des défauts attribués aux Grecs. Je cite, « Flemmard, bordélique, tricheur, ingrat, corrompu, violent, malpoli, raciste, vandale, voleur. » En 2012, pour synthétiser tout ça, un dessin du Monde, du journal Le Monde, dû à un crétin dont j'ai oublié le nom, montre deux Grecs vautrés sur une plage, l'un disant « Se faire traiter de branleur juste au moment où on allait se mettre à bosser, avoue que c'est très démotivant. » Et l'autre répond « Sûr, bosse un peu quand même, passe-moi l'ouzo. » Et ce n'est pas un cas isolé. Une partie de l'opinion publique européenne juge la Grèce actuellement avec un mépris moralisateur qui personnellement me donne envie de vomir ou de me battre. La Grèce a commis des erreurs, c'est évident, mais elle a également et surtout été sciemment agressée et démolie par certains gouvernements et par ceux qui, de plus en plus ouvertement, gouvernent nos gouvernements. Bref, le courant ne passe pas. La crise, c'est aussi une crise de confiance. Et je dirais que c'est un peu normal jusqu'à un certain point. Parce que la Grèce, elle est tout de même différente de nous. Elle paraît proche. Elle est familière, on en parle, on la connaît, on sait la situer. Nous avons le même passé, nous avons des ancêtres communs. Oui, mais en même temps, elle a tout un côté lointain. Parce que pour les Grecs d'aujourd'hui, la référence, c'est moins l'Antiquité que Byzance, que nous connaissons mal, que nous n'avons pas vécu. La Grèce est restée plus proche que nous de ses racines paysannes, de ses traditions populaires, qui sont un vrai trésor. C'est un pays qui est non seulement méditerranéen, alors que nous ne le sommes qu'à moitié en France, par exemple, et c'est un pays également très oriental. Et l'on peut dire, globalement, peut-être en simplifiant un peu, que le grec fonctionne davantage à l'émotion que nous, à supposer que nous, les occidentaux, fonctionnions rationnellement, ce qui n'est pas prouvé. La Grèce est dans l'Europe. Ce qui me frappe, c'est que même Alexis Tsipras, donc, qui est l'âme du mouvement Syriza, donc le mouvement d'extrême gauche, croit à l'Europe. La Grèce est dans l'Europe et en même temps, elle n'y est pas, puisque les Grecs disent encore quelquefois « je vais en Europe » pour dire qu'ils vont un peu plus à l'ouest. C'est donc un pays que nous avons du mal à saisir. Elle s'éloigne quand on la croit proche, et inversement, grâce au ciel. D'où une légère incompréhension réciproque. La Grèce est agaçante, c'est vrai, par moments, et attachante tout autant. Et ce qui est la condition idéale pour des relations intenses, à la fois passionnelles et passionnantes. J'en sais quelque chose. Je voudrais, à cet endroit-là, citer deux auteurs qui nous aideront à mieux connaître la Grèce. Il y a d'abord Nikos Dimou, auteur de « Du malheur d'être grec », publié en 1975, réédité en 2011, et qui existe en traduction française, traduction de Eurydice Trichon-Milsani, chez Payot. Un livre, un petit livre plein d'humour, assez sarcastique, qui dit des choses très justes et très actuelles. La preuve, sa réédition, y compris en Grèce. Et puis, il y a les livres de Yannis Kyrtsakis, ici présent, donc actuellement publié le 10 colonnes, une histoire grecque et double exil. Excellente traduction de René Bouchet, chez un excellent éditeur que vous connaissez peut-être, Verdier. C'est une trilogie en fait, mais je crois que René travaille encore au troisième tome. Ces livres de Kyrtsakis nous offrent un résumé juste et complet de l'histoire grecque récente, et ce n'est pas la seule, de leur vertu. Restons avec les livres, nous sommes là pour ça, et je ne pourrais pas évoquer ici tous les bonheurs de lecture que je dois aux auteurs grecs. Je vais devoir me limiter à un bref état des lieux et à notre présent, au paysage actuel, en insistant sur les livres disponibles en langue française. Mon but, c'est évidemment d'éveiller en vous l'envie de les lire. Sachez que la plupart des livres grecs qui comptent sont parus en français ces dernières années. En français, donc. Pour la poésie, d'abord, il existe une anthologie de la poésie grecque contemporaine en poésie Gallimard, 40 poètes, dont Thanasis Hatzopoulos, qui en est l'un des plus beaux fleurons. Et elle est parue en 2000, cette anthologie. Et à l'époque, le directeur, André Velter, m'a dit « on va commencer une série d'anthologies par pays. Et on va commencer par la Grèce. Parce que, selon moi, il n'existe sans doute pas de poésie plus riche en Europe et peut-être au monde que la poésie grecque. Et cette anthologie a été, à notre grande surprise à tous, un best-seller, puisqu'on en a vendu 8000 exemplaires. Pour de la poésie, c'est vertigineux. Et je continue modestement ce travail avec une anthologie par épisode, poète grec du XXIe siècle, avec des poèmes plus récents. Et je prévois 6 volumes, 10 poètes par volume, ça en fait 60. Et je peux vous assurer que la qualité est au rendez-vous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui peuvent offrir comme ça 60 poètes contemporains. Pour le théâtre, j'évoquerai tout à l'heure en plus en détail un très intéressant cahier publié par la Maison Antoine Vitesse, où l'on trouve 25 auteurs très contemporains, dont Dimitris Dimitriadis et Yanis Mavritsakis, qui sont peut-être pour moi les plus présents, les plus brillants. Mais il y en a beaucoup d'autres. La prose, eh bien, je dirais qu'elle est quand même méprisée souvent par les Grecs eux-mêmes. C'est vrai que c'est un pays de poésie plus que de prose. Et pourtant, cette prose est variée, très variée, étonnante, admirable parfois, et j'en donnerai quelques exemples dans un instant. J'ai dit que bon nombre de livres étaient traduits. Ce qui manque un peu tout de même, c'est les lecteurs. Beaucoup de titres ont été publiés de façon confidentielle et sont devenus rapidement introuvables en librairie. Et on est contraint, pour les lire, d'aller la mort dans l'âme, sans l'avouer à personne, les commander sur Amazon. Quelques exemples. Ménis Koumandareas et Thanasis Valtinos, les deux grands patriarches qui actuellement sont octogénaires et toujours actifs, eh bien, ces messieurs sont publiés par de petits éditeurs avec des tirages assez modestes. Zirana Zatelli et Ioanna Karistiani, deux romancières qui ont à peu près 60 ans maintenant, très connues dans leur pays, très admirées, ont eu un destin parallèle. Elles ont été publiées par Le Seuil, qui avait fait un bon choix, et abandonnées par le même Seuil, un éditeur que j'adore par ailleurs, parce que ça ne se vendait pas suffisamment. Et Ersi Sotiropoulos, elle a dû son existence française actuellement à deux valeureux éditeurs, mais pas très puissants financièrement, les éditions de Maurice Nadeau et le très courageux Kidam. Alors les causes de cette non-rencontre entre ces livres et nous. La Grèce a d'abord un problème d'image, puisque nous la connaissons sous les espèces de l'Antiquité et de ces paysages estivaux, donc on veut le blanc des ruines antiques, le blanc des villages des îles, le bleu de la mer et du ciel. Tout ça, ça existe, mais c'est loin de résumer le pays. Il y a aussi l'apathie de l'État grec, riche en promesses et pauvre en actes, et les livres, ça se soutient financièrement, c'est important. Ça a beaucoup manqué. Selon certains, l'un des torts de la littérature grecque, c'est d'être provincial, attaché à ses petits particularismes, et sa solution, ce serait de se mondialiser, ce qui évidemment est une calembredaine. On aboutirait ainsi à une littérature d'aéroport. Heureusement, il y a des auteurs grecs qui pratiquent l'exercice, j'en ai même traduit un, je bats ma coulpe, mais je ne le mets pas dans ma bibliographie officielle. J'ai juste touché l'argent. Donc, les prosateurs grecs restent dans une pénombre relative. Et ceux que nous connaissons le mieux, eh bien, ils sont avec nous. Ce sont ceux qui évoquent directement la crise, Christos Chrysopoulos et Petros Markaris, tous les deux, coïncidence, primés en 2013. Chrysopoulos a obtenu le prix Leur Bataillon et Markaris le prix européen. C'est quand même ce qui est quand même appréciable, ce sont des prix sérieux, je le précise. Dans quelle mesure les malheurs de la Grèce les ont aidés? C'est une question impertinente. Je crois qu'ils méritaient de toute façon d'être distingués. Je dirais qu'il y a peut-être un petit effet crise, mais nettement moins vigoureux que ce qui s'est passé sous les colonels, où là, vraiment, le tragique des événements a déterminé une vague d'approbation et d'amour pour la Grèce. Bon, la crise, j'hésite quand même à en parler parce que, d'abord, les écrivains de la crise, par excellence, se trouvant à la grâce, je ne vais pas leur couper l'herbe sous le pied en racontant leurs œuvres, ils le feront mieux que moi. Et puis, quand même, se limiter à la crise, c'est réducteur. Un écrivain, je crois, n'est pas tenu d'évoquer l'actualité, de décrire la réalité qui l'entoure, de représenter son pays, d'endosser le maillot de l'équipe nationale. Non, pour moi, un auteur grec, c'est d'abord un auteur. Et puis la réalité, même si l'écrivain s'y intéresse, ce n'est pas facile de la mettre en scène. Pour bien en parler, il faut du recul, de la distance, du temps, il faut le temps de la digérer. Et plus la réalité présente et envahissante, évidemment, plus il est difficile de l'ignorer, mais en même temps, plus il est difficile de prendre sa mesure. Elle est trop énorme. Et la digestion va être plus ou moins longue selon les genres. Par exemple, pour parler de la crise, le journalisme va être beaucoup mieux armé que la littérature. La poésie, sans doute plus que la prose, étant plus spontanée, s'écrivant plus vite, alors là, avec des réserves, évidemment, et la nouvelle, plus que le roman. Vous voyez ce qui s'est passé en 68 en France. Il y a d'abord eu des témoignages. Le roman est venu avec un temps de retard. Et le livre, à mon sens, sur 68, ce merveilleux tigre en papier d'Olivier Rollin, est paru en 2002, c'est-à-dire 34 ans après. Alors, un mot tout de même pour nos deux écrivains de la crise, au moins pour ceux qui ne seraient pas là les jours suivants. Christos Chrysopoulos, 4 romans traduits en français, dont celui qui nous concerne le plus, Une lampe entre les dents, traduction de Anne-Laure Brisac chez Actes Sud. Eh bien, ce n'est pas un roman, c'est un récit et un essai à la fois, avec des chapitres qui alternent. Il y a un chapitre documentaire, puis un chapitre de réflexion sur ce qui s'est passé. Quant à Petros Markaris, lui, il pratique le polar. Et comme on le sait, le polar est en prise directe avec l'actualité. Il a 8 romans traduits en français actuellement, dont sa déjà célèbre trilogie de la crise parue au Seuil, merci le Seuil. Et ces romans se suivent dans un sens, même s'ils peuvent être lus séparément. Ils racontent la saga du commissaire Charitos, une espèce de Maigret grec, si vous voulez, pour simplifier. Et ces romans nous offrent un tableau de la Grèce en crise très riche, très documenté, très juste, à la fois percutant et nuancé. Il démonte le mécanisme de la crise avec une grande clarté, un grand talent pédagogique et un immense talent de conteur. Il décrit les Grecs, Markaris, avec sympathie, sans les idéaliser, mais il montre quand même leur côté attachant. Ces personnages sont attachants et les rapports humains dans ces romans sont remarquablement complexes et ambigus. Je crois que pour comprendre, sentir ce qui se passe en Grèce actuellement, eh bien, il faut passer par les livres de Petros Markaris. Un grand roman sur la crise, pas que je sache. Certains auteurs grecs l'ignorent carrément, par exemple Thanasis Valtinos, traduit par Gilles Ortlieb, se penche actuellement sur son passé, tandis que Zirana Zatelli poursuit impavide la rédaction d'une immense trilogie romanesque nettement autobiographique. J'ai consulté certains prosateurs, voilà ce que ça donne. Par exemple, Amanda Michalopoulou, romancière et journaliste, elle a écrit des nouvelles sur la crise, mais commandées par son journal, ce n'était pas une initiative personnelle. Ioana Bourazopoulou, dont je vais parler dans un instant, a écrit une nouvelle, elle qui écrit de longs romans. Elle n'en est pas satisfaite. comme si ce n'était pas encore mûr. Ce qui est intéressant, c'est le cas de Ioana Caristiani, qui fait un peu exception. Sa dernière parution est un recueil de nouvelles qui décrit la Grèce de 2010, mais à travers la vie quotidienne de gens simples, donc de façon indirecte, là aussi. Et elle me dit qu'elle elle est en train d'essayer d'écrire un roman sur la crise et que pour l'instant, ça coince. Quant à Hersi Sotiropoulos, son dernier roman publié, Eva, nous montre une autre Athènes, Athènes transformée par les événements récents. Elle vous le développera elle-même, mais ce qui est remarquable, c'est qu'actuellement, elle écrit un roman sur le séjour de Cavafis, le grand poète, en Grande-Bretagne, à la fin du XIXe siècle, donc vous voyez, aucun rapport. Le théâtre. Alors, dans ce cahier de la maison Antoine Vitesse, paru aux éditions théâtrales dont je vous parlais, intitulé « Auteur dramatique grec d'aujourd'hui, miroir tragique, fable moderne », eh bien, je n'ai pas trouvé grand-chose sur la crise. L'exemple le plus net, c'est Maria Evstathiadi, qui est romancière chez Actes Sud, et on trouve dans ce cahier un extrait de pièces. Ce ne sont pas des pièces complètes, ce sont des petits échantillons qui permettent quand même de se faire une idée de ce qui se passe. Et dans Privatopia, on voit la crise chez les riches, parce que eux aussi, ils souffrent quand même. Ils sont effrayés, donc ils ont tendance à se réfugier dans, vous savez, dans ces domaines sécurisés, entourés de grillages, bien gardés. Voilà. Et toute la pièce se déroule dans de tels lieux. Et ce qui est remarquable, c'est que nous sommes dans le registre de la farce. Comme si le sujet était en quelque sorte radioactif, dangereux, et qu'on ne pouvait l'aborder que protégé par la tenue protectrice, la combinaison protectrice du comique. La poésie. Là aussi, je vais être rapide, puisque Jean-Yves Masson va nous en parler dimanche, je crois. La poésie, évidemment, on y trouve des poèmes cris de colère, il y a même des petits recueils publiés intitulés « La poésie de la crise ». Je suis allé consulter l'un d'eux sur le site internet Poema, qui est une espèce de plaque tournante. J'ai été assez étonné parce que les poèmes intitulé « Poème sur la crise » l'abordait de façon parfois tellement allusive que je ne la reconnaissais pas. Voilà. Cela dit, je voudrais quand même vous lire maintenant trois poèmes très différents qui vont nous montrer comment les poètes grecs peuvent réagir à l'événement. D'abord, un poème tout simple, basique, d'une jeune poétesse, à mon avis inconnue, je ne la connaissais pas, avant d'aller la trouver dans le mémoire dont je vous parlais, elle s'appelle Asimina Xiroyani. Et voilà ce qu'elle écrit. On me dit tout le temps, écris sur ton époque, sur ta ville, sur les gouvernants bien carrés, sur le mémorandum du FMI, sur les Européens, sur les manifs des indignés, sur la perte de l'identité nationale, sur les scandales politiques, sur la dignité disparue, sur notre pays vendu tout entier, sur la crise, sur l'avenir incertain, sur les jeunes au bout du rouleau, sur la génération des 400 euros par mois et tout le reste. Mais moi, je n'écrirai que sur la poésie qui m'aide à supporter tout cela. Maintenant, un poème de Stratis Paschalis qui, lui,
fait partie de la génération des quinquagénaires. C'est l'un des, à mon avis, l'un des deux ou trois poètes majeurs de cette génération, avec notre ami Chatzopoulos. Et un poème, donc, qui s'intitule « Hélas », en français dans le texte. Pascalis est un grand traducteur de français, comme Chatzopoulos d'ailleurs. Et c'est la dernière génération qui s'intéresse au français en Grèce. Et c'est un titre qui fait jeu de mots avec, évidemment, « Hélas », avec deux L, donc l'autre nom de la Grèce. Le poème est rédigé à la mémoire de Alexis Grigoropoulos, un jeune homme qui a été tué par la police lors d'une manifestation il y a 2 ou 3 ans. Et vous verrez que là, le paysage est totalement différent. On est dans une métaphorisation de la crise, dans un déluge d'images assez visionnaires. Sous les grilles des égouts se trouve une autre Grèce, inconnue de tous. Village muet enfoui, aux maisons verrouillées remplies de pleine lune et de marasme. Les nuages passent, édredons de coton volant, constellés de taches par les corbeaux. Arbres et buissons, bêtes vertes carnivores. Pierre, tumeur cancéreuse. La mer n'est pas de l'indigo. Peinture épaisse et sale, eau savonneuse. L'homme, nulle part. Rien que des ombres saoules qui titubent, des bannières à l'envers des veilleuses éteintes et des roses en plastique, des écrans de télévision jouant tout seuls qui diffusent des infos secrètes sur les amours des dieux. La Grèce ne meurt jamais. Encore pire quand le temps s'arrange. Des anadiomènes bouffis apparaissent. Des couleurs empoisonnées fleurissent. Nocturne de rats qui ne supportent pas la canicule, funambule sur les ossements de la treille. Le soleil, Néron en feu. La journée rouillée sent le déodorant. Dans ces cabines, des corps troués d'adolescents meurent à petit feu. Sur ces mâts s'agitent des drapeaux stupides. Au bastingage, des bébés jouant les assassins disent des obscénités. La mer s'éclaire et puis s'éteint, ennuyeuse alternance. À l'horizon, un néant béant. Ces enfers infectueux n'inquiètent personne. Les responsables étouffent l'affaire. Ils sont hors des égouts. Dans les étages d'un immeuble de verre qui porte l'inscription « Hellas ». Géométrie cycladique, les salons macédoniens, ces cours intérieurs minoennes, les hauts étages byzantinisent, alentour les plaines de Morée, les palmiers du sud, des ruines antiques entourées de gazon, des chapelles néoclassiques. Au milieu du jardin, crachant de l'eau insipide, les lions de Délos. C'est là que résident, par milliers, des pantins vêtus en gens du peuple ou comme dans les magazines. De temps à autre, les haut-parleurs annoncent « Nous faisons partie de l'Occident » ou « Ici commence l'Orient ». Le ciel bleu électrique et la saison toujours la même. L'égout, on le nettoie rarement. Alors surgissent d'entre ces grilles des anges papillons. Ils volent autour de l'immeuble en verre. Tout le monde vient aux fenêtres pour voir. Ils battent un peu des ailes, puis poursuivent. Vers où, nul ne sait. Et j'ai choisi un troisième poème qui est dû à... Là aussi, l'un des plus grands, à mon sens, c'est Christophoros Liondakis, qui lui est de la génération antérieure, et il a mon âge à peu près. Et je vais vous lire son poème, avec mon délicieux accent, en grec. Vous allez voir pourquoi. Γρίζα χώρα. Λάμπουν αρχές νύχτες στην Ακρόπολη. Αθηναίοι ζητιανεύουν στη Μητρόπολη. Στις Βρυξέλλες παζαρεύουνε προγράμματα. Στην Ελλάδα όλα είναι για τα κλάματα. Γκρίζα η χώρα, γκρίζα όλα. Ομόλογα, περικοπές, έρχεται η μπόρα. Κορμιά κοιμούνται σε βρώμικα χαρτόνια. Το βράδυ στα σεντόνια μου λιώνουν χιόνια. Από ένα αόρατο κελί στην πόλη που σπαράζει, χλωμές φωνές μου ψιθυρίζουνε σταγιάζει. Πρόσωπα που μοιάζουν με Φαϊούμ, στριμωγμένα στις Ομόνιας το αλαλούμ. Στις τάχτες η Πεντέλη και ο Ημιτός και η Βικτόρια ένας χαμένος συρφετός. Η Πάρνηθα πλέει σε μαύρα σύννεφα και η Ομόνια βουλιάζει μες στη Σύριγγα. Qui pourrait donner en français pays gris. L'Acropole et ses nuits antiques resplendissent. Plus bas, des Athéniens fouillent les immondices. À Bruxelles, on discute, on marchande, on programme. En Grèce, où tout est à pleurer, on rame. Dans ce pays, tout est gris, tout est moche. Salaire raboté, dette, la pluie approche. Des gens dorment dehors que des cartons protègent. Dans mes draps, chaque soir, je sens fondre la neige. Venant d'un coin caché de la cité en crise, des voix pâles vers moi chuchotent dans la bise. Des visages nombreux, rappelant le Fayoum, se pressent sur Omonia, ce Capharnaüm. Le Pendeli, l'Imet ont des couleurs de cendre. À Victoria, dans la cohue, on doit descendre. Sous des nuages noirs, le mont Parnasse s'enfonce. La place Omonia sombre dans la défonce. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Liondakis ne pratique pas le vers régulier. Et c'est exceptionnel. Alors que d'autres, comme Michalis Ganas, par exemple, sont familiers. Le vers régulier n'est pas mort en Grèce, loin de là. Alors, comment l'interpréter? Je pense que ici, la forme très voyante serait comme chez Efstathiadi, cette espèce de côté farcesque. Ce serait une façon de mettre à distance la douleur. Et alors, le temps me manque pour dire deux mots sur la traduction. J'ai évidemment un petit peu modifié pour que qu'il y ait le rythme et la rime, mais bon. Oui, juste un mot, par exemple, l'original dit des Athéniens mendient devant la cathédrale, puisque Liondakis fait rimer Acropoli et Mitropoli. Mitropoli étant juste en bas, c'est frappant. Donc j'ai transformé la mendicité en fouillage de poubelle. Et l'auteur m'a dit que oui, ça collait à peu près. Voilà. Alors j'ai eu aussi envie de demander aux auteurs eux-mêmes comment ils vivaient cette fameuse crise. Et j'ai envoyé à certains d'entre eux un questionnaire avec ces deux questions. Comment les événements récents ont-ils influencé votre activité d'écrivain? Et avez-vous déjà écrit sur la crise ou avez-vous l'intention de le faire? Florilège de réponses. Stamatis Polenakis, poète, 45 ans. J'ai l'impression d'avoir vécu, depuis que je suis conscient, dans une crise permanente et dans un environnement où il devient de plus en plus difficile de vivre. Pour lui, les conséquences de la crise sont autant psychologiques et existentielles qu'économiques. On s'en doutait. Christos Angelakos, romancier, poète, 50 ans. Quand ta vie et ton environnement sont renversés par un séisme politico-économico-social de force 9, tu as envie de crier plus souvent et plus fort simplement pour montrer que tu existes. Polenakis encore, « Au-delà des difficultés matérielles que la crise d'aujourd'hui vient d'aggraver pour moi, elle suscite en moi des doutes lancinants quant au rôle et à l'utilité de l'écrivain dans une société moribonde. » Ioana Burazopoulou, 45 ans. « La démagogie des discours nés de la crise a dégradé la langue. Les mots ont perdu leur sens et leur force. J'hésite à les utiliser dans mes écrits. Parallèlement, j'ai également perdu le plaisir de lire. » Je lis des textes d'auteurs grecs que j'estime, et pour moi ils sonnent faux. La nécessité de revivifier la langue me semble plus impérative que celle de revivifier l'économie. Et ce qui revient comme un leitmotiv chez eux, c'est une espèce de sidération face à ce qui les a frappés. Polenakis. Je ressens le besoin d'écrire sur tout cela, mais je ne m'en sens pas capable. Il se peut que l'indignation, la colère, la tristesse m'aient paralysé. Demain, peut-être, naîtra une voix qui parlera de ce qui aujourd'hui semble inconcevable. Nikos Erinakis, 26 ans. J'écris sur la crise, ses causes et ses conséquences, tantôt directement et consciemment, tantôt indirectement et inconsciemment. Oui, ils en sont imprégnés. Yanis Mavritsakis, 45 ans. Même si je ne la prends pas pour sujet, j'écris certainement sous son influence destructrice. Burazopoulou, encore. La thématique de la crise s'insinue dans nos livres, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non. Nos romans sont le produit de la crise, même si ce n'était pas leur intention, même s'ils ne parlent pas d'elle. Alors, il y a une chose quand même assez remarquable, c'est la question de l'engagement politique. Dans toutes ces réponses, je n'ai trouvé aucun discours militant, aucun soutien déclaré à un parti. Évidemment, j'avais évité les questions délicates du genre « pour qui t'as voté ?» hein. Mais bon, je crois que la cause, c'est d'abord une désaffection vis-à-vis de la politique politicienne. Les deux grands partis ont été discrédités par leur médiocrité humaine et morale, et par leur corruption notamment. Mais j'ai cru comprendre quand même que la plupart des écrivains consultés étaient de gauche. Ça, c'est une tradition grecque. C'est beaucoup plus net que chez nous. L'expression intellectuelle de droite se traduit très mal en grec. J'ai noté aussi une sympathie, je pense majoritaire, pour le jeune Alexis Tsipras, donc le Mélenchon grec, pour simplifier beaucoup, parce qu'il ne se ressemble pas humainement. Avec quelquefois une nuance d'inquiétude, il n'a pas fait ses preuves, le jeune homme, etc. Mais enfin, bon, il y a de la sympathie. Et s'il y a des intellectuels de droite en grec, ils s'en cachent honteusement. Quant à ceux de l'Aube dorée, savent-ils seulement lire? Le plus intéressant dans ce panorama express, c'est peut-être les livres qui ont parlé de la crise avant la crise. Vous savez, les écrivains sont quelquefois pareils aux chevaux qui sentent les tremblements de terre, par exemple, avant les humains. Et il y a deux livres, par exemple, qui me tiennent à cœur, qui ont exprimé la venue de la crise de façon sans doute brouillée et indirecte. Je voulais dire un mot du roman de Ioana Burazopoulou, « Qu'a-t-elle vu la femme de Lot ?» paru en 2007, donc avant la crise, traduit en 2011 aux éditions Ginko. La Grèce n'y apparaît pas. Elle a été engloutie par un raz-de-marée. Tout se passe entre Paris, devenu port de la Méditerranée, siège d'une compagnie toute puissante qui fait commerce d'un sel mystérieux, et, près de la mer Morte, la colonie où le sel est exploité. C'est une histoire ahurissante, grotesque et sinistre, avec un côté kafkaïen, à la fois drôle et désespéré, profondément original. Et derrière ces péripéties incessantes, car on ne s'ennuie pas une seconde dans ce livre, il y a une dimension philosophique cachée. Il y a tout de même dans ce livre la Grèce qui sombre, l'Europe du Sud avec elle, l'Europe tombée aux mains du grand capital, une colonie sous les ordres de dirigeants lointains et insensibles, des rapports humains dégradés, la tension, la violence, la détresse. Donc, qu'a-t-elle vu la femme de Lot est devenue un livre prophétique. Et deux mots, bref, parce que ce livre n'est pas encore paru en France, ça va bouger, tu vas voir, Kati Thayini Thadis, du quadragénaire Christos Oikonomou, Et plusieurs Grecs m'ont dit, ça, c'est le livre sur la crise. Alors qu'il est paru en 2010 et les histoires avaient été écrites avant. Donc un livre prémonitoire, 16 histoires qui se déroulent dans des quartiers populaires avec la pauvreté, le chômage, les immigrants, la misère, la violence, mais aussi la solidarité. C'est un livre qui fait à la fois froid dans le dos et chaud au cœur, avec une technique narrative subtile et audacieuse, un travail sur la langue populaire. Je vais passer mes prochaines vacances avec lui. Alors jusqu'ici, le tableau est quand même très sombre, et je voudrais pour terminer montrer le revers, la résistance, l'effort pour rebondir. Marigo Alexopoulou, poète, 35 ans. Ce que nous vivons, c'est l'équivalent d'une plongée dans les profondeurs qui peut soit nous laisser tout au fond, soit nous amener à remonter vers la surface. Cela a déjà été dit à l'instant, il y a actuellement en Grèce une activité culturelle bouillonnante, à Athènes surtout. L'édition a été durement touchée. Les libraires et les éditeurs sont nombreux à fermer boutique. Les seuls livres qui se vendent à peu près, me dit-on, ce sont les essais sur la crise, ça se comprend, et les livres sur le yoga. Eh oui, mieux vaut en rire. Mais Internet est le lieu d'un grouillement incroyable de sites littéraires et poétiques. Les soirées poétiques se multiplient. Quant au théâtre, lui aussi, il est en pleine effervescence avec des jeunes compagnies qui se forment sous forme de coopératives, sans argent, un théâtre de la pauvreté, mais un théâtre extrêmement vivant. Un exemple encore, Bourazopoulou, dont je parlais, elle a écrit une pièce en un acte qu'elle n'a pas publiée vraiment. Il est publié sur le site de ses éditions, Castagnotis, libre de droit, donc chacun peut s'en emparer. Et pour jouer cette pièce à deux personnages, je crois, il n'y a ni décor, ni costume. Nikos Erinakis nous dit « Je m'efforce de contribuer par ma poésie à la création d'un nouvel imaginaire social collectif. Mon but est de proposer des idées et des voies nouvelles, ou jusqu'ici négligées, qui puisse servir non seulement d'antidote à la crise, mais de point de départ à ce que nous souhaitons voir venir après la crise. » Qui vivra verra. Ils se battent, et nous aussi, traducteurs de grec. Car traduire du grec, en ces temps-ci, c'est un combat. C'est pourquoi, par exemple, un traducteur, je le connais bien, c'est moi, est amené à devenir éditeur, pour aller, ici ou là, pêcher des lecteurs un à un, interpeller les lecteurs. Aide-nous, toi aussi. C'est un travail de Sisyphe. Mais, comme l'a dit fort bien Albert Camus, il faut imaginer le traducteur de grec heureux. Donc, je vous invite, vous pouvez le faire, à vous battre avec nous, à nous épauler. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de nous écouter et aussi d'acheter des livres pour nous permettre de continuer. Merci.
Un, 3 plus 1. Je le mets dans la poche. Ça marche toujours. (3 - 1, 3 + 1). Mais pour le petit nombre de ceux dont la tête est ferme, le goût délicat et le sens exquis, et qui, comme vous, messieurs, compte pour peu le ton, les gestes et le vin sont des mots, il faut des choses, des pensées, des raisons, Il faut savoir les présenter, les nuancer, les ordonner. Il ne suffit pas de frapper l'oreille et d'occuper les yeux. Il faut agir sur l'âme et toucher le cœur en parlant à l'esprit. Comme quoi le rythme, ce n'est pas seulement une affaire de comptage des syllabes. Une phrase est aussi construite sur des unités plus larges. Témoin cette phrase de Buffon, apothéose autoproclamée du grand style classique, déroulant comme un long tapis ses périodes majestueusement ternaires. Glissons sur la sottise de la pensée, le vain son des mots. Oh, le bouffon! Pour remarquer simplement qu'en nous martelant son pom-pom-pom avec une insistance hypnotique, l'auteur vise d'abord notre oreille, caresse nos sens. Ces grands rythmes ont sur nous une influence viscérale autant qu'intellectuelle, sinon plus. 3. Symbole de complexité, d'équilibre, de perfection. La seule fois où le père Buffon, dans la dite phrase, quitte le ternaire, c'est pour marquer l'insuffisance, le manque. Il ne suffit pas de. 3 éléments comme 3 dimensions. Les 3 adjectifs chez Proust, le monde saisi dans sa diversité, son relief. 2 seulement, mauvais signe. Elles l'inspectaient insolemment avec leur face à main, du même air minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat au nom pompeux mais à l'apparence suspecte, qu'après le résultat défavorable d'une action méthodique, on fait éloigner avec un geste distant et une grimace de dégoût. 2 éléments, 3-1 en fait, pour peindre un monde plat, une réalité pauvre, action machinale, sentiment étriqué. Et maintenant, 3 parties plus 1. Il était traversé d'idées absurdes, de raisonnements bancals, d'inventaires sans but et de calculs sans fin. Jean Echenoz au piano. On ajoute un élément et l'équilibre est perdu. Phrase elle-même bancale et sans but et qui tourne en rond admirablement. Il faudrait aussi l'analyser syllabiquement, ce rythme ressassant, boiteux. 6 plus 4 plus 6 plus 5 plus 6. J'étais triste comme si je venais de perdre un ami, de mourir à moi-même, de renier un mort ou de méconnaître un Dieu. Encore une phrase de Proust touchée par la grâce. Cette fois, le 4e terme ne marque pas une perte, mais, malgré le constat négatif, une ouverture, comme si au-delà des 3 dimensions, on entrevoyait une mystérieuse 4e. Il met des clémentines sur son sexe pour que je les mange. C'est dégoûtant, 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 dégoûtant. Mais non, Madame Angot, juste agaçant comme tous vos écrits. Mais ici, pile au bon moment. 3 dégoûtants, on resterait dans la mesure. 4, on bascule dans l'infini. Vive le prof. Foot, compile, rédac. Mot familier, pas toujours bien vu à l'écrit. C'est l'homme de la rue qui raccourcit les mots. L'écrivain, lui, vous dira volontiers qu'il a lu un livre de philo dans le bus, mais en prenant sa plume d'oie, le voilà tout timide, au point parfois d'écrire noblement, sauf dans ses dialogues, philosophie et même peut-être autobus. Pourtant, le mot retaillé, resserré, ne manque pas de vertu. Débarrassé de sa terminaison, c'est souvent une finale en sillon froid et moche, réduit à l'essentiel, corps sans vêtements, inutile, il gagne en vivacité, en vigueur. Mathématiques et philosophie déploient une dignité un peu écrasante. Maths et philo, c'est mes copines. L'exposition m'ennuie. Allons à l'expo. Provocation, ce mollasson, me fait peur à personne. Provoque, lui, frappe dur et fort. Documentation, longue demoiselle sèche, me rébarbe. Vive la doc, cette marrante petite. Longue vie à ces nouveaux mots et mention spéciale à ceux admis au club fermé des monosyllabes à la fois prolo et aristo. Mais ne jetons surtout pas les versions longues, elles peuvent encore servir. Si je peux prendre tantôt le bus, vite fait, tantôt l'autobus, acte plus solennel ou plus ludique ou poétique, salut que l'eau, ma vie sera plus variée, ma prose plus riche. Pour décrire les jeunes dont j'ai la charge, montrer leur double visage, deux mots ne sont pas de trop. Ado, vif, rigolo. Adolescent, évanescent, comme empêtré dans un corps trop grand. Ado, unisexe, pour la camaraderie. Adolescent, la différence fille-garçon apparaît. Adolescente, Eva, naissante. Professeur, ce maudit mot-là, zéro à qui l'a inventé. L'enseignant, professionnel de la fessée. Heureusement que les élèves, par gentillesse, ont inventé prof, à moins que ce ne soient les profs eux-mêmes. Comme l'écrit le très digne Renaud Camus, qui déteste prof, dans son répertoire des délicatesses du français contemporain, prof, et tout est dit. Un prof, c'est un tiers de professeur. C'était le passage poilant du livre. Convenons-en, prof, professeur abrégé, perd beaucoup de sa superbe et du même coup l'estime des sots. Il se console avec celle des autres qui lui valent son humilité, sa simplicité, sa rondeur. Il sait qu'à tout prendre, un nain de jardin fait du meilleur boulot qu'un père fouettard et que le comble de l'art, c'est de savoir faire court. Il est vrai que nul n'a jamais totalement tort, même les escrocs gnugneux à la Renaud Camus. La réduction d'un mot peut aussi, dans certains cas, tourner au jeu de massacre. Dans le fulgurant tigre en papier d'Olivier Rollin, les vrais noms de deux de nos présidents sont remplacés par des versions tronquées, pompe et mythe. Cette fois, on n'efface pas l'odieux et le ridicule, on les fait cruellement apparaître en décapant. Pompe Afrique, vaste mythe, petite mythe. Deux personnages supposés grands se trouvent là démasqués, dégonflés, givarisés à mort. Et moi, j'en profite pour braquer le projo une fois encore sur Tigre en papier, ce livre extra que j'ai lu dans le métro, qui mérite 1000 fois ma pub, qui devrait être remboursé par la Sécu. Superflu nécessaire. Écrire, c'est avant tout gommer. Nos brouillons sont de grandes choses touffues et molles. Un arbre à tailler, un filet dont on doit tendre les fils. On passe, on repasse à n'en plus finir. Et quel plaisir à chaque fois quand tombent quelques mots inutiles de plus, rendant le texte à la fois plus dense et plus léger. Faut-il en conclure que plus c'est court, mieux c'est ? Le grand Jean Prévost, dans son Baudelaire, imagine le poète montrant l'un de ses plus beaux sonnets, Recueillement, à l'un des critiques illustres de l'époque. Celui-ci lui reproche, au nom des règles de la rhétorique classique, de très évidentes longueurs. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. On redit deux fois la même chose. Tu attendais le soir, il descend, le voici, récidive. Et ainsi de suite jusqu'au « Entends, ma chère, entends » du vers final. Docile, Baudelaire dégraisse alors son sonnet qu'il réécrit en octosyllabes. « Ma douleur, tiens-toi plus tranquille. Tu voulais le soir, le voici, etc. » Le sonnet allégé, on s'en serait douté, est aussi goûteux qu'un fromage blanc light. Presque rien ne subsiste dans le sonnet amaigri de l'exquise et lente incantation du chagrin, note Prévost. Le chatoiement des souvenirs n'a plus la paresse du soleil couchant sur le fleuve. Autre longueur criante, qu'un défenseur du beau langage corrigerait d'un trait rouge et rageur. Il y a un grand oiseau qui tourne autour de la lanterne. Le coupable, Jean-Pierre Abraham dans Armen. À la première page d'un des plus admirables livres qui soit, rédigé d'une main sûre. Il serait tellement plus simple d'écrire « Un grand oiseau tourne autour de la lanterne ». Y a-t-il là vraiment une maladresse ? Ce « il y a », loin de gêner, d'alourdir, ne donne-t-il pas à la phrase une mystérieuse ampleur ? Oui, pour deux raisons. D'abord, il crée un bref suspense. « Il y a ». Quoi ? Avant de savoir que c'est un oiseau, on sent une présence indéfinie, vaguement inquiétante. Il y a, dit aussi, qu'avant d'agir, de tourner, cet oiseau est là. Il est. Il y a rend sa présence plus intense, l'immobilise. Le fait de tourner cesse d'être l'action principale. L'oiseau est là. Accessoirement, il tourne. C'est par il y a que tourner atteint pleinement sa dimension circulaire, son absence de mouvement. À côté du plaisir de suivre la règle, il y a aussi, surtout, un plaisir de l'exception, de la transgression. Mon présent éloge du pléonasme, des longueurs, des répétitions, me comble d'aise en ce qu'il amène le maniaque de brièveté que je suis à l'exercice le plus salutaire, penser contre soi-même. Il ne s'agit naturellement pas de renier la concision, mais de la pratiquer souplement, de façon variée, modulée, contrastée. Ralentir le rythme, par exemple, sert à mieux accélérer ensuite. Toute prose efficace ondule ainsi, alternant le vif et le modéré, comme un cheval qu'on retient avant de lui lâcher la bride sur le cou.
Merci beaucoup Michel Volkovitch, merci beaucoup Baptiste Roussillon.